Et nous recevons Manuel Valls, Premier ministre de mars 2014 à septembre 2016, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Ayrault. Vous êtes actuellement député La République En Marche de la première circonscription de l'Essonne. Bonjour, une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seize avec deux points. Tout d'abord, la doctrine Macron en matière d'antiterrorisme, Manuel Valls.
Mais les choix qui sont ceux du président de la République, du chef de l'État, c'est-à-dire qui est en charge de l'essentiel, notamment en matière de protection des Français, de défense, ces choix, je les approuve. Et ils prennent en compte, évidemment, la dimension de la menace, du danger que représente le terrorisme à l'extérieur comme à l'intérieur. Les faits ont été rappelés, y compris la loi qui a été adoptée sous l'impulsion de Gérard Collomb pour sortir de l'état d'urgence, nous permet, me semble-t-il, de combattre le terrorisme. Sur le substrat, sur la philosophie, sur la sociologie, je n'ai rien à redire à la chronique que je viens d'entendre.
Mais c'est très éloigné de la doctrine Valls. La doctrine Valls, elle dit que le salafisme est en quelque sorte le substrat naturel du terrorisme. Emmanuel Macron, lui, parle de radicalisation de la laïcité.
Ne l'ayant pas entendu officiellement prononcer ce mot, je suis...
Un propos rapporté qui n'a pas été nié par l'Élysée.
Voilà. Je bondis, je marque une forme d'indignation quand j'entends parler de radicalisation de la laïcité. Parce que je pense, on peut le dire notamment sur France Culture, que les mots ont leur importance. Combien de gens a-t-on tué au nom d'une soi-disant radicalisation de la laïcité? Personne. Est-ce que ceux qui sont attachés comme moi à la République et à la laïcité et à la loi de 1905 proposent un changement de la loi pour expulser je ne sais quelle religion? Personne. On tue au nom de l'islam radical. Ça, c'est vrai.
Quelle est l'approche de la laïcité au sein de la majorité? On a beaucoup entendu un député que vous connaissez qui s'appelle Aurélien Taché, qui a été beaucoup mis en avant par l'exécutif et qui dit, lui, la laïcité, c'est une forme de loi pour faire cohabiter les religions, pour arriver à garantir la liberté religieuse. Ça, c'est pas du tout une conception que vous défendez, vous. Quel est le point commun au sein de la majorité sur la laïcité?
La liberté religieuse, la possibilité de croire ou ne pas croire dans notre pays, c'est un droit fondamental. Et personne ne peut remettre en cause cela. La France est un pays extraordinaire. C'est le pays aux racines chrétiennes. C'est le pays qui a connu des affrontements terribles entre catholiques et protestants. Ça coûtait d'ailleurs très cher à la France, l'expulsion, le départ des protestants il y a quelques siècles. C'est le pays où on a reconnu les juifs comme citoyens. Et le choix en 1791, c'est un choix majeur. C'est le pays où l'islam est aujourd'hui la deuxième religion, est une religion française. C'est le pays de la laïcité, de la loi de 1905. C'est tout ça, la France. Donc, ça fait partie de notre patrimoine profond. Et la laïcité, c'est en même temps un principe politique. Aurélien Taché a dit que ce n'était pas un principe politique. Il se trompe. C'est un principe politique, profondément, qui nous permet de vivre et de vivre les uns ensemble. La laïcité, ça n'est en rien une doctrine d'expulsion, une doctrine qui viserait à empêcher les gens de croire. C'est pas une doctrine contre l'islam, ça n'a aucun sens, même si je connais l'histoire et la République s'est battue contre l'Église catholique, notamment sur la question de l'école, mais c'est un principe politique, et ce principe politique, il faut le faire vivre, il est inscrit dans la Constitution et je le défends parce que c'est tout simplement l'identité de la France.
Mais lorsque vous préconisez, Manuel Valls, l'interdiction du salafisme, est-ce que justement, là, on n'est pas dans le cadre de la radicalisation de la laïcité?
Mais nous, d'abord, je ne le fais pas au nom de la laïcité. Je le fais au nom des événements que nous subissons. Les terroristes qui viennent de frapper encore une fois la France, qui frappent d'ailleurs tous les jours en Irak, en Syrie, et qui ont frappé l'Europe au cours de ces dernières années. Plus de 250 morts, des centaines de blessés, de gens traumatisés à vie, pour ce qui concerne la France. Ils agissent au nom d'une idéologie. Cette idéologie, c'est celle de l'islam politique, de l'islamisme, des frères musulmans ou du salafisme, qui n'est pas séparé de l'islam. Ils puisent leur idéologie dans les textes de l'islam. Et quand je dis, comprenons-nous bien, que ça a à voir avec l'islam, c'est précisément pour aider les musulmans, au sein de l'islam, à lutter contre cette idéologie totalitaire. Or, si nous considérons qu'ils agissent au nom d'une idéologie, mais il faut combattre cette idéologie qui qui est basée sur l'antisémitisme, la haine des juifs, la haine de nos valeurs, pas les valeurs occidentales,
mais
les valeurs universelles.
Tout le monde est d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on peut interdire une idéologie?
En disant ça, j'avais déjà dit à l'Assemblée nationale, quand j'étais Premier ministre, combien il fallait combattre la doctrine des frères musulmans et des salafistes. C'est aussi pour réveiller les consciences. C'est lutter contre le terrorisme, et il faut le faire, c'est évidemment des moyens considérables pour éviter les attentats, et beaucoup d'attentats ont été évités. C'est de répondre aux questions que se posent les Français depuis vendredi, mais comment peut-on être encore plus efficace pour que cela ne se reproduise pas? Mais derrière, il y a une idéologie. Cette idéologie, je le rappelle, parce que ça me paraît essentiel, et la propagande de l'État islamique le souligne tous les jours en disant, après les défaites de Mossoul, de Raqqa, ils nous disent, nous avons perdu une bataille, mais nous avons gagné une génération qui connaît son ennemi. Et l'ennemi, c'est nous, ce sont les Français.
Est-ce que vous diriez ça, Manuel Valls, par exemple, de l'Opus Dei, qui a fait des morts en Espagne? Est-ce que vous diriez cela d'une autre forme radicale de religiosité?
Ça peut arriver, mais... Très, très honnêtement, nous sommes là, je comprends le débat philosophique, le débat politique, il est de haute tenue, mais aujourd'hui en France ou en Espagne, puisqu'il y a eu les attentats de Barcelone, qui auraient dû faire des milliers de morts.
L'extrême droite a tué aussi en Espagne avec un lien à l'Opus Dei. Est-ce que vous auriez préconisé
ne mélangeons pas tout.
Pas aujourd'hui.
Mais ne créons pas cette... Ça, en plus, c'est une confusion dangereuse qui vise à mettre tout sur le même pied
d'égalité. Non, on essaie de raisonner sur les principes.
Mais je le comprends. Mais aujourd'hui, les principes et la réalité. Moi, je suis un politique et j'agis, même si j'aime le débat intellectuel, et j'essaie de puiser ma conviction dans les textes. Il y a toujours une explication sociologique, nous y reviendrons, à ce qui se passe. Mais il y a d'abord aujourd'hui une explication idéologique, politique et religieuse. Et aujourd'hui, je le rappelle, en tout cas en France et en Europe, on tue au nom de l'islam radical. Donc, ça veut bien dire que l'idéologie salafiste nous pose un problème. On ferme des mosquées, on expulse des imams salafistes. Donc, comment mieux combattre cette idéologie, celle des frères musulmans ou celle des salafistes? C'est pour ça que je pose le problème de l'interdiction. Je connais par cœur les problèmes de droit. Je sais qu'il est très difficile d'interdire une idée, que le principe même constitutionnel, philosophique, juridique est posé. Mais il faut désigner l'adversaire. Désigner l'adversaire, et l'adversaire, ce sont aujourd'hui les frères musulmans et la salafiste. En tout cas, je veux que les Français soient conscients que c'est ça le problème, et c'est pour ça que c'est le problème d'une génération. Quand on a des milliers de personnes radicalisées dont certains peuvent passer à l'acte, il faut se poser la question du débat politique et de la confrontation politique et idéologique.
Vous avez dit attention également à l'insouciance, c'est un mot que vous avez employé hier.
Souvent.
Attention à l'insouciance, est-ce que ce n'est pas finalement faire gagner en un sens l'idée des terroristes qui est de nous faire perdre notre insouciance, de la bannir et donc de nous terroriser?
La meilleure réponse au terrorisme, ou l'une des réponses en tout cas, c'est évidemment vivre, c'est la démocratie, continuer à aller au spectacle.
Garder son insouciance.
Aller au spectacle, prendre un verre sur les terrasses de café, assister à un feu d'artifice le 14 juillet. Oui, bien sûr. Mais quand je dis, et je le disais déjà il y a en 2015, qu'il faut sortir d'une période d'insouciance, ce n'est pas perdre la capacité à vivre, c'est d'être lucide. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un attentat. Tout le monde en parle. On rend hommage à cet officier de gendarmerie incroyable de héroïsme, aux autres personnes, des gens simples. Un agriculteur à la retraite, un maçon à la retraite, un boucher. Des gens qui ne pouvaient pas imaginer un seul instant, alors que ça arrive à Paris, c'est normal, mais que ça arrive à Carcassonne ou à Trèbes, c'est impossible. C'est cette ville que je connais bien, sur le canal du Midi, une ville populaire, et tout à coup, l'impensable arrive.
Il y a un cycle d'hommage un peu habituel.
Et après, on oublie. Et après, on revient, et Sarkozy, et la politique économique du gouvernement, et les débats au sein de telle ou telle formation politique, c'est normal, c'est la démocratie. Mais quand je dis, et c'est pas facile, et ça a été difficile pour moi, de répéter, attention, nous allons connaître d'autres attentats, c'est l'affaire d'une génération. Encore une fois, il faut lire les textes de nos ennemis, de nos adversaires, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda.
Justement,
c'est toute une génération. Quand vous
au niveau des textes, Manuel Valls.
Quand vous avez 1500 personnes radicalisées, des détenus de droit commun, radicalisées dans nos prisons, quand vous avez 20 000 personnes sur un fichier de prévention de la radicalisation. Quand vous avez le rapport de Malik Bouti qui m'a été remis quand j'étais Premier ministre il y a 2 ans, qui dit il y a des milliers de personnes qui sont en train de basculer. Quand il y a les intellectuels, vous en pensez ce que vous voulez,
j'aimerais parler des intellectuels, oui. Juste un instant là-dessus. Et vous dites, lorsque l'attentat est commis, on rend hommage, ensuite on s'endort. Si on faisait de la sociologie, si on faisait de la philosophie, vous avez prononcé une phrase un peu étonnante, parce que vous lisez d'ailleurs, vous avez un livre entre les mains à ce sujet, vous avez dit « expliquer, c'est justifier ». Est-ce que ça n'est pas le contraire d'une démarche qui pourrait être efficace aujourd'hui, où on se pencherait grâce aux universitaires, aux experts? Ils ne sont pas tous d'accord, mais ils peuvent aider justement parmi cette masse de gens qui sont fichés S, et que l'on n'arrive pas à distinguer pour ceux qui vont passer à l'acte. Est-ce que finalement, vous ne pourriez pas amender ces propos que vous avez tenus sur les sciences sociales?
Les sciences sociales, la philosophie, les intellectuels sont indispensables. Tous, je parlais il y a un instant de 100 intellectuels, pas d'accord d'ailleurs entre eux sur d'autres sujets, mais qui il y a une semaine dans le Figaro explique très justement que dans un certain nombre de quartiers, il y a un séparatisme, une contre-société salafiste, je peux ajouter, un séparatisme qui se crée. Et ça représente un danger pour ce que nous sommes, d'abord pour ces quartiers populaires, pour nos compatriotes et concitoyens de confession musulmane ou de culture musulmane, mais d'une manière générale, pour la France. Il y a là un défi qui est posé à la République. J'ai le livre de David Thompson, un journaliste, qui a écrit un livre exceptionnel sur les revenants, qui ne peut plus vivre en France parce qu'il est menacé de mort, et qui dit, pour expliquer ces phénomènes, il a étudié de près notamment la question des revenants, tout en disant que les plus dangereux aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas revenants parce qu'ils n'ont pas pu partir et qui veulent agir sur notre sol, et qui dit, l'un des principaux facteurs de facilitation pour aller au terrorisme est sans surprise sociologique. Donc je ne nie pas ces phénomènes sociologiques, mais relever la réalité des déterminismes sociaux n'excuse ni s'explique vraiment, souligne-t-il. Car le djihadisme n'est pas exclusivement une idéologie du pauvre. Il ne se résume pas à la seule équation immigration-délinquance banlieue. Et donc, il y a derrière un phénomène religieux. Ben, je ne dis pas autre chose. Je n'amende en rien ce que je dis, au contraire, parce que je pense que dans le débat de la sociologie, et d'ailleurs, il y a aujourd'hui de nouveaux sociologues qui veulent sortir de cette sociologie qui est celle uniquement de l'excuse du déterminisme social-économique, qui compte évidemment, mais qui ne peut pas expliquer ce phénomène idéologique et religieux.
Finalement, ce que vous visiez, c'était un type de sociologie, Manuel Valls ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on pourrait parler.
Pourquoi ne pas avoir dit dans ce cas-là, je vise un type de
sociologie ? Mais je l'ai dit, mais vous savez comment ça se passe. En fait, je ne vais pas revenir sur ces propos parce que je crois profondément à ce que je dis à ce moment-là. Oui, il y a dans la sociologie française, il y a une sociologie qui est celle de l'exclusion. Elle est terrible. Elle était vraie pour la délinquance. Elle est vraie pour le terrorisme. Elle enferme d'ailleurs tous ceux qui vivent dans les quartiers en leur disant ou vous êtes des délinquants ou vous êtes des musulmans. Non. C'est eux qu'il faut protéger, qu'il faut aider d'abord. Regardez les réactions dans ce petit quartier de Carcassonne où ces gens disent mais on est enfermé. C'est une minorité qui fait la loi. Et c'est qui cette minorité? C'est ceux qui à la fois vivent des trafics. C'est le profil d'ailleurs de ces terroristes et qui en même temps se radicalisent, qui veulent imposer leur mode de vie. Donc attention, c'est ça qu'il faut regarder de près.
Vous nous dites ce Frédéric matin, Seitz. Attention, vous nous dites en quelque sorte, c'est la mère des batailles. Il faut que chacun soit conscient de cette lutte qui prendra, dites-vous, une génération. Pourtant, aux élections de 2017, pardon d'y revenir, les votants de la primaire ont choisi Benoît Hamon qui n'était pas du tout sur la même tonalité. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas su convaincre de la prééminence de ce combat, ou est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé que vous étiez la bonne personne pour l'incarner?
C'est étrange que vous reveniez d'ailleurs sur cet événement majeur il y a un an, qui s'est conclu par 6,5% pour celui qui avait été désigné par la primaire.
Mais au-delà du chiffre, ça veut dire que les gens n'avaient pas conscience de ce que vous dites, de cette prééminence, de ce combat culturel qu'il faut mener.
La primaire, il y a un peu plus d'un an, s'est joué d'abord sur le jugement que ceux qui sont venus voter portaient sur le quinquennat. Et j'ai pris pour tout le monde, j'ai pris pour le quinquennat. Et je n'ai pas su expliquer. Bien évidemment, si on perd une élection, c'est qu'on n'a pas été bon. Ce n'est pas les électeurs qui sont mauvais, même si là, cette primaire a été mal organisée, qu'il y avait peu de monde qui est venu voter. Mais bien sûr, je n'ai pas réussi à convaincre. Mais je le disais il y a un instant, y compris, j'ai créé une forme de... J'avais le sentiment d'être anxiogène. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur ou Premier ministre et que vous allez régulièrement à la télévision en disant « c'est la mère des batailles, c'est une génération. Quand vous dites à des jeunes dans un lycée, vous allez vivre avec le terrorisme pendant plusieurs années, et quand je le redis aujourd'hui, je ne suis pas celui qui apporte les bonnes nouvelles. Vous créez une forme de climat. Mais dans mon rôle, avec l'expérience qui est la mienne, avec le recul qui est le mien aussi, et puis je dis ça modestement, parce que ce sont des sujets très, très, très compliqués, mais je considère que j'ai ce rôle. Ceux qui disent non, tout ça est économique, ou il ne faut pas en parler, parce que ça gêne le tout va mieux aujourd'hui. Non, ça peut aller mieux sur le plan économique, il peut y avoir de la croissance, de l'emploi, mais nous allons vivre avec cela, parce que dans le monde, il y a une transformation, nous n'avons pas le temps, mais depuis notamment les années 90, après l'écroulement du bloc soviétique, avec le surgissement de l'islam politique, notamment le 11 septembre 2001, avec ces phénomènes de fond dans nos sociétés, eh bien, il faut apporter une réponse.
Vous dites que c'est trop anxiogène.
Mais justement, non, le mot anxiogène...
Ça a joué sur votre image anxiogène.
Oui, mais je n'ai rien à regretter, parce que malheureusement, vous savez, moi j'ai les combats de ma vie. Je pense que je ne me suis pas trompé sur la montée de l'antisémitisme. Et ça continue. Et ça continue. Et c'est au cœur de quelque chose de très profond dans la société française, d'abord. Et c'est pour ça que je pense que ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un siècle avec l'affaire Dreyfus a été fondamental pour consolider la République. Mais aujourd'hui, il faut de nouveau des Dreyfusards par rapport à l'antisémitisme. L'antisémitisme est par ailleurs au cœur de l'islam politique, de cette idéologie. La haine des juifs précède toujours la haine des valeurs universelles. Et il y a cette très belle phrase de Kafka, quand on frappe un juif, on frappe l'humanité. Eh bien c'est exactement la même. Je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas trompé sur deux données. Je ne me suis pas trompé quand j'ai prononcé des mots en disant clairement ce qu'était l'islam politique. Donc, fort de cette expérience et de cette petite autorité que je me permets de rappeler ici devant vous, très immodestement, je pense que c'est mon rôle aussi de rappeler quels sont les défis qui sont devant nous.
Mais alors justement, sur le mot anxiogène, vous dites « je ne me suis pas trompé sur Dieudonné », mais est-ce qu'en soulignant un caractère antisémite évident chez cet homme, le fait que ce soit le Premier ministre qui le fasse, est-ce que pour le coup vous n'avez pas durci le dur pour le public qui le suivait? Est-ce que le fait de ne pas pointer du doigt cet homme, de l'oublier, c'est-à-dire d'essayer d'être finalement peut-être moins, comment dire, plus sobre, comme l'ont été par exemple Angela Merkel, Barack Obama sur le terrorisme, est-ce que finalement ça n'aurait pas été une manière de moins médiatiser ces phénomènes et peut-être de moins les souligner?
Si il n'y avait pas eu Ilan Halimi, s'il n'y avait pas eu Sarah Halimi, s'il n'y avait pas eu les assassinats de l'école aux Torah, s'il n'y avait pas eu des cris de mort aux Juifs en 2014, à l'occasion d'une manifestation de soutien au Hamas, s'il n'y avait pas eu ces propos, ce torrent de boue antisémite sur les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas eu des actes antisémites qui continuent, à ce moment-là, vous auriez raison. Mais parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont à un spectacle à Marseille il y a quelques mois de Dieudonné, ils y vont en toute connaissance de cause. Donc il y a un problème. Et alors, être sobre, négliger ce problème, ne pas en parler, c'est d'ailleurs pas ce que vous dites, alors là, ça serait une faute politique, morale, particulièrement grave. Non, je pense qu'il faut affronter cela, la réalité de ce phénomène, et ne rien lâcher sur l'essentiel. Et parce que, malheureusement, il y a cette jonction entre l'antisémitisme, celui de l'extrême droite traditionnelle, très bien analysé par Poliakov il y a déjà quelques années, sortant du christianisme, le peuple juif qui a péché originel, la mort du Christ d'un côté, parce qu'il y a un antisémitisme qui vient aussi de l'extrême gauche, de la gauche, mais reprenant les mêmes poncifs, à chaque fois les mêmes caricatures, parce qu'il y a l'antisémitisme ancré au sein du monde arabo-musulman. Pour mille raisons, qu'il y a la jonction de tous ces éléments-là, il ne faut pas se taire, parce que ça tue, ça provoque des morts. Les mots tuent, les mots arment des gens qui prennent des couteaux ou des armes à feu ou des bombes pour tuer.
Donc il ne faut rien lâcher. L'antisémitisme n'est pas le seul vecteur.
Regardez, vous parlez de la sobriété de Mme Merkel, mais en Allemagne, les actes antisémites ont repris. en Allemagne.
L'antisémitisme, donc... l'antisémitisme est une évidence. Sarah Halimi, d'ailleurs, le meurtre a mis 11 mois avant d'être qualifié comme un meurtre antisémite.
Mais c'est bien
le caractère antichrétien des actes, il y a beaucoup de gens également qui s'émeuvent, par exemple, que les profanations de cimetières chrétiens n'aient pas déclenché une réaction. Et on voit qu'il y a là, en fait, un phénomène qui est plus complexe que
plus
l'antisémitisme
large, oui.
Seul.
Non, il y a l'antisémitisme qui a sa, alors, bien sûr, sa complexité, mais son évidence. Il y a eu beaucoup d'actes antichrétiens. Il y a aussi des actes anti-musulmans, des mosquées qui sont profanées. Tout cela existe, mais rapporté à la population par rapport aux 500 000 Français juifs, ces actes antisémites sont énormes. Mais sans parler de l'antisémitisme, il y a là quelque chose qui fracture profondément de notre société. Je pense que le rôle d'un intellectuel, ou le rôle d'un journaliste, le rôle d'un politique, en tout cas, c'est l'idée que je me fais, c'est d'être, je ne sais pas si c'est le bon mot, lanceur d'alerte, mais en tout cas, c'est de dire la vérité, et de dire la vérité aux Français. Sa vérité, mais c'est cette vérité que personne ne peut négliger.
Je voudrais revenir sur une phrase qui est la vôtre hier dans la Dépêche du Midi, suite à l'attentat de l'autre. Vous avez cette phrase: face au terrorisme, il faut aller plus loin que l'arsenal judiciaire habituel. Ça veut dire quoi?
Mais je pense qu'il ne faut pas être péremptoire dans le sens où, bien sûr, nous avons voté beaucoup de lois antiterroristes, j'ai renforcé les services de renseignement, réformé en profondeur la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et le gouvernement actuel poursuit en termes de moyens, de mobilisation et de coordination, notamment autour du président de la République. Mais je pense que nous devons répondre aux questions que se posent les Français depuis vendredi.
Mais aller plus loin, ça veut dire quoi, concrètement?
Ça veut dire qu'il faut sans doute se poser des questions, mais je ne dis pas que la réponse est évidente, sur qu'est-ce qu'on fait notamment de toutes ces personnes qui sont fichées. Soit dans les...
Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Oui, mais quand vous... Et on verra ce que donnera l'enquête, et soyons prudents. Mais quand vous voyez que cette personne était... ce terroriste était... Je ne prononce plus les noms, moi, des terroristes. Je veux parler d'abord des victimes. Cette personne était fichée, connue. On était en train de lever, d'ailleurs, la surveillance, probablement, parce qu'on n'avait pas d'effet. Que sa compagne était aussi, sans doute, semble-t-il, fichée S. Est-ce qu'on pouvait pas intervenir avant? Je dis pas que la réponse est facile. Intervenir avant, ça veut dire comment on peut le neutraliser? Quelqu'un qui est connu pour salafisme, qui est consulte des sites salafistes. Comment est-ce qu'on peut pas avoir une surveillance plus forte sur lui? Est-ce que dans ces quartiers, et je sais que c'est long à mettre en place, on peut pas avoir plus de policiers, plus de renseignements?
Mais ça là, suppose pas une modification de la loi.
Je ne parle pas de modification de la loi.
Vous avez dit aller plus loin que l'arsenal habituel.
Je ne parle pas forcément de modification de la loi. Je dis qu'on ne peut pas dire aux Français, je ne parle pas seulement des familles, des proches qui s'expriment depuis vendredi avec une très grande dignité, mais on est obligé de leur apporter une réponse. On a évité beaucoup d'attentats. Quand il y a un attentat, ça veut dire que les terroristes passent, bien sûr, comme on dit, en dessous des radars. Mais on est obligé de se poser de nouveau des questions. Comment on peut encore améliorer, même s'il n'y a jamais de risque zéro, et même si nous connaîtrons malheureusement d'autres attentats, comment on peut être plus efficace? Quand vous dites à des Français, il y a 20 000 personnes qui sont fichées pour radicalisation, et que ces personnes ne peuvent pas toutes, évidemment, aller en prison, être surveillées, moi, je peux le comprendre, je peux l'expliquer, vous aussi, mais beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos compatriotes se posent à juste titre la question. Donc,
ça veut dire aussi qu'entre les 20 000 et les passages à l'acte, il y a très peu de cas, et là, il faudrait faire tout un travail, justement, de ciblage, de profilage, peut-être plus que de renseignements, pour comprendre finalement ceux qui passent à l'acte.
Nous avons besoin de renseignements, notamment dans les quartiers populaires. On a eu ces renseignements généraux il y a quelques années, notamment pour ce qui concerne, par exemple, les bandes qui se livraient à une très grande violence. Cela n'existe plus ou moins. Il faut reconstruire des services de renseignement territoriaux. C'est ce qu'on a fait. Ça demande du temps. On le fait aussi.
Mais là, ça veut dire qu'en 5 ans, vous n'avez pas eu le temps de le faire, Manuel Valls?
Mais nous l'avons fait. Mais construire un service de renseignement, par exemple, dans nos prisons, c'est 5 ans. Ça se met en place. C'est long, c'est 5 ans. Parce que le renseignement, c'est pas de la philosophie, c'est du concret. Il faut,
et la philosophie, ça peut aider.
Ça peut être du concret. Mon Dieu, je retire cette phrase immédiatement. Mais, la réalité du renseignement dans un quartier, vous devez trouver des gens qui s'immergent. C'est vrai à l'extérieur du pays, c'est vrai dans ces quartiers populaires. Donc tout ça nécessite du temps, mais il faut en permanence s'adapter, parce que les terroristes cherchent à avoir par leur méthode d'action un temps d'avance. les démocraties, le respect du droit, la liberté, c'est fondamental. Donc il faut qu'on soit capable, nous, de nous adopter plus rapidement.
Sur l'héroïsme et celui, évidemment, du gendarme Arnaud Beltrame, familialement, comment il résonne, vous qui êtes fils de républicains espagnols, qui êtes donc fils de gens qui sont battus avec évidemment le risque de leur peau pour une cause, Manuel Valls?
Là, c'est vraiment c'est l'héroïsme de quelqu'un qui sait qu'en grande partie, il sacrifie, sans armes d'ailleurs, les mains nues, sa vie parce qu'il prend la place de quelqu'un d'autre. C'est le sacrifice total. C'est pas celui uniquement qui prend les armes, qui s'engage pour défendre la liberté, pour une cause, la République espagnole ou la résistance, bien évidemment. Un héroïsme extraordinaire, bien évidemment. Là, dans ces temps de paix, dans cette démocratie apaisée, a priori, qui est la nôtre, vous avez un homme qui se sacrifie pour sauver la vie d'une femme, d'une caissière. Mais je vais vous dire quelque chose aussi. Les trois autres personnes qui ont été abattues, l'acte est différent, mais ils sont morts aussi pour la France. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons voulu pour toutes les victimes du terrorisme. Mort pour la France, mort pour la patrie, mort pour la nation, peu importe le terme. Il faut leur rendre hommage également. Donc, mais nous avons besoin de figures héroïques, c'est vrai. Cet officier, ce lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, est en effet une figure du héros dont nous avons besoin. Les sociétés ont besoin de se transcender, de vivre en paix depuis 70 ans, comme nous le connaissons. C'est au niveau de l'histoire tout à fait extraordinaire. Nous n'avons jamais connu de telle période aussi longue de paix. Mais parce que nous sommes en guerre et parce que le terrorisme nous fait la guerre, oui, une figure héroïque. Ce sacrifice doit être rappelé en permanence.
Un mot rapide, peut-être, Manuel Valls, sur ce candidat de la France insoumise qui se félicite quasiment de la mort de ce gendarme. Jean-Luc Mélenchon a condamné très clairement ses propos. Selon vous, ça représente un propos isolé de quelqu'un qui n'a pas l'air très, très, très stable, ou au contraire, quelque chose de peut-être plus diffus dans la société française, où l'unanimité que vous évoquiez tout à l'heure n'est pas si complète que ça?
Non, il n'y a pas d'unanimité. Regardez après Charlie, je veux dire, il y avait 5 millions de personnes dans les rues partout en France, mais il y avait des gens qui n'étaient pas Charlie ou qui n'aimaient pas ce qui était en train de se passer. Il y a une minorité de gens qui continuent à expliquer que les gendarmes, les policiers, après tout ce qui s'est passé, sont des adversaires et des ennemis. Bon, donc, oui, mais je ne veux pas commenter ce tel propos, imbécilité de cette personne, de cet individu, mais il fallait évidemment l'interpeller, parce que c'est de l'apologie du terrorisme. Se réjouir à la mort de quelqu'un, c'est évidemment tout à fait insupportable. Mais c'est l'occasion de rappeler le sacrifice quotidien des policiers, des gendarmes, de nos soldats, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières, de nos services de renseignement. Eux, ils risquent leur peau. La grande différence, m'avait dit le général de Villiers, entre les militaires et tous les autres, et on peut dire ça pour les policiers et les gendarmes, c'est que eux, ils risquent tous les jours leur vie.
Selon vous, Emmanuel Macron doit-il se rendre sur place dans l'Aude?
Moi, je ne donne pas de conseils, mais je pense que là, une petite ville de comme celle de Trèbes, sur le canal du Midi, ce bout de France, choqué par ce qui vient de se passer, oui, attend un moment ou l'autre la présence du chef de l'État. Mais je pense que Emmanuel Macron, qui, contrairement à ce que parfois on dit, suffisamment raciné dans ce pays, aime l'histoire, aime les paysages comme moi de ce beau pays qu'est la France, saura trouver les gestes au-delà de l'hommage national qui sera rendu à ce lieutenant-colonel Beltrame pour aller à la rencontre de ces Français.